Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le deuxième dimanche du carême chaque année, nous lisons le récit de la transfiguration de Jésus, qui eut lieu au sommet du mont Tabor, sous le regard de trois témoins abasourdis, Pierre, Jacques et Jean. Ses vêtements, nous dit l'Évangile, devinrent resplendissants. Les vêtements de Jésus d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut, avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. On peut être surpris pour un dimanche de carême de trouver ainsi un épisode de gloire et de lumière de la vie de Jésus. Dans la liste des mystères du chapelet, d'ailleurs, la transfiguration est classée comme un mystère lumineux, et on comprend pourquoi. Mais il faut, pour comprendre, préciser que ce qui s'est passé juste avant. Pierre vient de confesser sa foi en Jésus en tant que Messie. Pierre a dit, en prenant la parole, « Tu es le Christ ». Alors Jésus avait défendu de parler de lui à personne et commençait à enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Donc Jésus venait d'annoncer sa passion et leur avait enseigné ce que signifiait concrètement pour eux suivre le Messie, en les termes suivants, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et c'est alors qu'il avait désigné les trois, Pierre, Jacques et Jean, pour les emmener sur une haute montagne où aurait lieu ce resplendissement de son corps. Cet épisode de gloire, donc, qui est proclamé durant le carême, a eu sa place avant la passion, car Jésus voulait, pense-t-on, hein, enlever du cœur de ses disciples le scandale de la croix, enfin les préparer. Il souhaitait que sa passion qu'il allait subir ne trouble pas leur foi, du moins que leur foi survive à ce qui pour eux était impensable. Ils ne voulaient pas le croire. Ils ne pensaient pas que le Messie soit un jour cruellement mis à mort et qu'il disparaisse dans un tombeau. Alors Jésus s'est transfiguré devant eux, et pour nous aussi cet évangile est là, pour nous rappeler que nous préparons la grande fête de Pâques, que Jésus triomphera finalement, mais que pour l'instant, en ce carême, il faut l'accompagner sur le chemin de douleur qui fut le prix de notre rachat, comme dit saint José Maria. Le carême, avant d'être une période de discipline ou une période d'exercice, le carême c'est surtout être avec le Christ, c'est être avec Dieu, pas seulement dans les moments faciles, mais aussi dans la grande épreuve de la passion. Comme disait le pape François, nous n'allons pas au ciel en carrosse, Jésus ayant tout fait, mais nous l'accompagnons. Et que viennent ici faire Moïse et Élie? L'Église a toujours considéré qu'ils étaient là pour représenter l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance qui avait précédé. C'est ce que dit aussi la préface de ce dimanche de carême dans la messe. Elle fait une sorte de synthèse en affirmant que, après avoir prédit sa mort à ses disciples, Jésus leur manifesta sa gloire sur la montagne sainte et en appelant la loi et les prophètes comme témoins, voilà Moïse et Élie, la loi et les prophètes, il révélait aux apôtres que c'est seulement à travers la passion que nous pouvons parvenir au triomphe de la résurrection. Donc, dans cette convocation de l'Ancien Testament, Dieu montre son plan sur l'histoire, sur la sainte histoire, sur l'histoire de l'humanité. Dieu nous rappelle que le monde n'est pas un chaos imprévisible soumis uniquement à la loi du plus fort. Non, nous vivons, et surtout nous depuis le Christ, nous vivons dans un monde racheté, même s'il est encore gravement affecté par le mal. Mais par la bonté de Dieu, l'humanité a tout ce qu'il faut pour se relever à tout moment. Encore faut-il vouloir, oui, accepter, correspondre. Pour être sauvé, encore faut-il vouloir aller à la messe du dimanche, par exemple, ou se confesser. Le carême est là pour nous aider à vouloir. Et pour certains d'entre nous, c'est possible facilement d'aller à la messe, de se confesser. Pour d'autres, c'est plus dur, voire impossible. Alors il faut vraiment vouloir, malgré tout, le désir. Et même si vous êtes isolé ou en maison, vous n'hésitez pas à faire appeler un prêtre, ou au moins à demander un prêtre. Plus il y a de gens qui demanderont, et plus ça se fera. Et parfois, et souvent, c'est possible. La transfiguration est aussi une manifestation du mystère trinitaire. La voix qui retentit, c'est celle du Père, qui désigne Jésus comme le Fils bien-aimé. Et l'Esprit-Saint n'apparaît pas explicitement, on peut le voir dans la nuée qui couvre toute la scène de son ombre, comme Marie fut couverte de l'ombre de l'Esprit-Saint à l'Annonciation. Donc le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. La voix du Père dit « Écoutez-le » en désignant son Fils. C'est son commandement « Écoutez-le » comme si elle disait « En lui est la plénitude de mon amour qui se révélera sur la croix. » Écoutez-le, il donne un nouvel enseignement, une loi nouvelle. C'est la loi nouvelle de l'Évangile, une loi de générosité, une loi d'absolue sincérité, de transparence. Une loi qui, pour être accomplie, a besoin, pour accomplir cette loi, nous avons la grâce de l'Esprit-Saint. Une loi qui est donnée à ceux qui manifestent leur foi en Jésus et en ses mérites obtenus sur la croix. La transfiguration nous rappelle que Dieu est trois. La voix du Père, le Fils bien-aimé, l'Esprit qui reste discret. Dieu d'abord trois. C'est un seul Dieu, mais il n'est pas solitaire. Trois personnes inséparables, liées entre elles par un amour très fort et très tendre. Celui-ci est mon Fils, dit la voix. Ce n'est pas une voix froide ou dominatrice, c'est une voix qui aime. La transfiguration nous révèle aussi ou nous confirme que Dieu est lumière. Jésus, donc, parut d'une autre manière. L'aspect de son visage devint autre. Son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. La liturgie, en particulier orientale, avec ses icônes dorées et ses lampes, dans les églises, insiste beaucoup sur la lumière. Et nous aussi, tous les dimanches, nous disons il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, en parlant du Christ. Dieu est la lumière par excellence. En lui, il n'y a pas de ténèbres, aucune trace de mal. Le mal, c'est un rejet de Dieu. C'est l'absence de Dieu, c'est le contraire du bien. Dieu est une lumière qui éclaire et réchauffe notre personne, comme le soleil dans la nature. Sans le soleil autour de nous, tout retournerait à l'obscurité et au gel. Il n'y aurait plus de vie même, ou très difficilement. Et Dieu n'est pas simplement comme le soleil, qui simplement éclaire. Dieu, il est même une lumière à l'origine de ce qui existe. Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible. Le problème, c'est qu'il est peut-être un peu trop lumineux pour nous, comme Pierre, Jacques et Jean, qui sont saturés. Et nous sommes un peu comme des oiseaux de nuit qui ont peur de trop de lumière. Alors Dieu se manifeste assez discrètement. C'est vrai qu'il ne nous force pas à croire dans notre vie. Peut-être qu'il ne se manifeste pas si fort, mais c'est à nous de le chercher et de l'accepter. Et comment cherche-t-on Dieu? Comment l'accepte-t-on? On l'a dit, par les sacrements et puis aussi par la prière. La transfiguration a lieu sur une montagne, peut-être pour nous indiquer qu'il y a un effort à faire pour prier, qu'il faut chercher Dieu. Et notre prière ne sera pas souvent une sorte d'extase, hein, comme ce passage d'évangile ou un événement exceptionnel, ce sera notre prière quotidienne, un humble effort, le matin ou le soir, en famille ou seul, quelques instants, quelques minutes au minimum. Quelque chose, c'est mieux que rien. Il faut un peu de temps. Prenons-en en ce moment. Dressons trois tentes, dit Pierre. Restons encore un peu. Prenons le temps de regarder Dieu, ou simplement de lire un passage et d'en parler avec Dieu, un passage d'évangile. Et Dieu nous réconfortera. À la fin de ce passage, Jésus s'approche et touche ses disciples en leur disant « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Et levant les yeux, ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. Ils redescendent de la montagne à la fin, et la vie continue. Une vie qui n'est certes pas idéale, aucune vie n'est idéale, qui n'est pas parfaite, c'est comme ça. Mais c'est la vie d'une personne qui croit, la vie d'une personne qui est baptisée, qui demande le baptême, la vie d'une personne qui prie, qui a été à la messe, qui s'est confessée peut-être. C'est la vie ordinaire comme tout le monde, mais avec le Christ. Et une vie ordinaire avec le Christ, c'est une vie transfigurée.